Fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir. Tout de suite, le journal en français de ce vendredi 9 août 2019. Bienvenue en direct sur le studio Kalangou. Restez avec nous pour ces 15 minutes d'information. 18h15 au sommaire de ce journal. Il est recommandé aux musulmans qui ne sont pas en train d'accomplir les rites du Hajj de jeûner le jour de l'ascension du mont Arafat. Les explications d'un prédicateur sur les bénéfices de ce jeûne tout de suite. Dans ce journal également, les conseils d'un vétérinaire sur l'immolation de moutons à l'occasion de la Tabaski. Célébration le 12 août prochain du 70e anniversaire des conventions de Genève adoptées après la Deuxième Guerre mondiale. Rappel du contexte de l'adoption de ces conventions en fin d'édition. À ce microphone, Diallo Mariama Kenda, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a conseillé aux musulmans qui ne sont pas en train d'accomplir les rites du Hajj de jeûner le jour de l'ascension du mont Arafat afin de bénéficier de la grâce exceptionnelle que Dieu accorde à la Oumma islamique. Selon Oustaz Abdul Fatao Mahmoudou, ce jeûne recommandé peut se faire même le samedi malgré l'interdiction de jeûner volontairement les samedis. Il explique au micro de Moussa Hassan.
Le jour de Arafat est un jour très important auprès de Dieu. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le Hajj même c'est Arafat. Et le messager nous fait savoir encore, c'est le jour où nous bénéficions plus d'amnistie auprès de Dieu. Les pèlerins doivent s'abstenir de jeûner afin qu'ils puissent se consacrer à l'adoration. Nous autres qui ne sommes pas pèlerins, il nous est recommandé de jeûner ce jour-là. Le jeûne de Arafat nous procure 2 années de péché pardonné. Une année devant nous et une année derrière nous.
Il est dit aussi aux musulmans de ne pas jeûner le samedi.
Pour un jeûne volontaire, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'éviter de jeûner le vendredi même et le samedi. Mais un jeûne pour lequel il y a un ordre, on peut le jeûner. Puisque le messager nous dit sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner Arafat, voilà ce que ça procure. Déjà, il y a un ordre qui est donné que l'on peut exécuter.
Pour l'immolation d'un animal, le vétérinaire conseille de faire sous la surveillance vétérinaire dans un abattoir de préférence pour s'assurer du bon état de la viande, tel indiqué par la loi au Niger. Cependant, une exception est faite pour les cérémonies religieuses et familiales, comme l'explique le docteur vétérinaire Sahabi Barthé au micro de Railatou Soumana.
Normalement, les abattages ne doivent pas se faire à la maison, comme en famille, en tout cas. Ça doit se faire dans un endroit approprié pour l'abattage des animaux. En l'occurrence, des abattoirs. Du sang dans une concession, par exemple, le contenu du tube digestif, tout ça, ce n'est pas approprié dans un domicile. Dans les pays développés, quand bien même on veut faire les rites musulmans, on les fait sous contrôle vétérinaire à l'abattoir. Mais ici, on appelle ça des abattages religieux, ou bien les abattages familiaux lors des baptêmes et autres, on fait exception à la loi. Vous voyez, le jour de la fête, là, c'est un grand massacre d'animaux qui se fait. Je ne pense pas qu'il y ait suffisamment d'agents d'élevage pour contrôler ces animaux-là. Mais si la personne y tient, elle peut se faire assister par un vétérinaire qui peut regarder la carcasse, qui peut effectivement porter des signes, en tout cas un danger pour le... Bon, heureusement que c'est cuit, donc c'est porté à peu près à 100 degrés, les bactéries banales vont partir.
En cette veille de la plus importante fête musulmane, la Tabaski, les vendeurs de vêtements ne font pas encore de bonnes affaires à Niamey. Studio Kalangou est allé à la rencontre de certains qui constatent la rareté des clients à cause du manque d'argent ou plus préoccupés à acheter d'abord le mouton du sacrifice.
Vraiment, ça ne marche pas. Mais vous savez que les enfants ont besoin des vêtements pour la fête, des chaussures et autres. Mais il y a aussi le mouton.
Donc les parents doivent satisfaire les besoins des enfants.
Vraiment, vraiment, ça ne va pas. On est là à avaler seulement du lait. On les attend. 1, 2, 3, seulement les petites choses. Cacamètes, tofu, c'est ça, on vend un peu.
Mais les habits, non.
Les habits, non.
Les clients arrivent à compte-gouttes. Les gens sont plutôt préoccupés par les moutons et consorts que l'habillement. Peut-être ceux qui ont un reliquat après leurs grandes dépenses peuvent se procurer un ou deux complets pour aller à la prière.
Aujourd'hui, c'est l'avant-veille de la fête, mais on ne sent pas.
Cette fois-ci, c'est vraiment dû pour tout le monde. Le marché, ça ne va pas. On ne vend rien du tout, en tout cas. Non, on ne sent même pas que c'est la fête. Parce que la clientèle aussi crie qu'il n'y a pas d'argent, les moutons sont chers, tout ça là. Donc, il n'y a pas marché du tout.
Le commerce des bonnets et boubou est l'occupation principale d'un jeune Nigéro-Malien basé à Bamako. Omar Tidjane Keita, 34 ans, est natif de Bernin Koni, région de Tawa. Il a souhaité rejoindre le pays d'origine de son père à la recherche d'un meilleur avenir. Il est au micro de notre envoyé spécial Raïlat Ousmane.
Nous vendons les bonnets des Al-Jabba de l'Arabie Saoudite, des tapis et des babouches. Tous ces articles viennent d'ailleurs. Ceux qui sont confectionnés au Niger ou ceux qui arrivent du Nigeria sont les plus sollicités. C'est dans les films qu'ils voient ce type de style. C'est pourquoi ils appellent ce type de bonnet Aoussafoula. Le prix varie de 500, 10 000 jusqu'à 20 000 francs CFA. Les Nigériens, quand ils viennent, ils choisissent les bonnets maliens. Il y a le bonnet court que l'on appelle bonnet ATT, il y a un autre aussi qu'ils appellent bonnet Moussa Traoré. Nous le vendons à 10 000. Moi, j'ai fait le choix du style malien parce que ma mère est nigérienne et tous mes parents du côté de mon père sont des Maliens. Je suis né au Niger. J'ai fréquenté l'école là-bas, mais bon, les choses n'ont pas marché. Alors, je me suis dit, il faut tenter une autre chance. Je suis ici avec ma femme et tout va bien.
Confectionner des œuvres d'art avec la calebasse, c'est ce que fait un natif de Tessawa âgé de 30 ans. Son BEPC en poche, faute d'opportunités pour poursuivre ses études, Omar Leko a décidé d'être créatif et envisage même d'agrandir son atelier. Il est au micro de Seydou Sanké.
J'ai essayé de voir le chemin qui va me conduire pour m'en sortir. Dieu merci, j'ai commencé de faire ce travail de la fabrication de la calebasse et le bois de plafond. Je les mélange comme je veux. J'ai fait le logo, les cartons, voiture des enfants, l'armoire, etc. Quelle que soit sa difficulté, je fais les faire. Mon inquiétude maintenant, je n'arrive pas à avoir des gens qui puissent m'aider à améliorer mon travail. J'ai lancé un appel aux autorités locaux et autres bonnes volontés qu'ils puissent m'aider. En peine d'avoir une issue meilleure.
Durant toutes ces années, as-tu formé des jeunes à ton tour?
Oui, bien sûr. J'ai encadré beaucoup de jeunes sur ce travail au nombre de 12. Par exemple, même l'année passée, j'ai reçu un contrat, j'ai divisé ça en deux parties. Pour faire ça à temps, ils sont presque à me dépasser même.
32 jeunes de la région de Tillabéri viennent de débuter une formation sur la pratique de l'élevage au centre agro-pastoral de Beleyara. Un apprentissage étalé sur un trimestre avec l'appui de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, afin de leur permettre d'exercer en professionnel, explique Dr Rissa Zakara, responsable du centre. Il est au micro de Seydi Abdou Winditane.
Le but, c'est de leur donner une formation pratique au métier de vache. À la fin de la formation de 90 jours, ils auront ce qu'on appelle un certificat d'aptitude au métier de vache. Et ce certificat d'aptitude leur permet d'exercer tous les métiers concernant le vache, mais de façon professionnelle, pas de façon théorique. C'est des gens qui sont capables de conduire une ferme, ce sont des gens qui sont capables de faire des industries animales, des laiteries. Ce sont des gens vraiment qui, sur le plan pratique, seront confirmés au plan possible. Maintenant, les meilleurs d'entre eux vont passer à un niveau qu'on appelle le brevet d'aptitude professionnelle. Les meilleurs, toujours d'entre eux, seront envoyés en Tunisie ou en Israël pour toujours apprendre la profession. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont formés, mais au point de vue pratique, ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui ont le doctorat, mais qui ne savent même pas comment on nourrit un animal.
Plus de 23 000 signatures collectées pour la pétition lancée mercredi à Niamey par les jeunes Nigériens engagés pour l'environnement. Pour rappel, ces jeunes veulent que le gouvernement revienne sur la redéfinition des limites de la réserve naturelle de Termite et Tentouma. Omar Soumana Amadou, membre de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, interrogé par Rokeyatou Abdourahmane.
Nous avons lancé la pétition le mercredi vers midi. L'objectif au début, c'était d'avoir les 20 000. Et déjà, en 24 heures, nous avons eu ces 20 000 signataires. Donc, nous avons augmenté maintenant l'objectif, ce serait à 50 000 signataires. Et déjà, à l'heure où je vous parle, et nous avons eu plus de 23 000 signataires. C'est vraiment très simple. Nous avons partagé ça sur les réseaux sociaux.
Au Niger, la loi recommande de porter secours à des personnes en danger. Cependant, en cas d'accident, il faut porter secours tout en maîtrisant certaines règles, conseille Karadji Souleyman, responsable du service d'assistance médicale d'urgence à SAMU, au micro de Moutari Mohamadou.
Il n'est pas interdit de secourir des victimes. C'est même recommandé. Il y a une disposition du code pénal, en tout cas, qui condamne la non-assistance à personne en danger. Ne pas assister quelqu'un sous prétexte qu'il faut forcément les sapeurs-pompiers ou le SAMU, c'est un peu abusé. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les gens, je pense, sont un peu craintifs par rapport à ce qui pourrait être leur journée lorsqu'ils vont décider d'assister quelqu'un qui est en détresse, notamment en parlant des accidentés. Ce qu'on dit, c'est que, en fait, il faut apporter secours, mais en connaissant certaines règles simples, c'est-à-dire il faut faire attention quand quelqu'un est dans le coma ou bien quand il a l'air de ne pas pouvoir bouger les membres, de faire attention à ne pas aggraver une situation. Mais ça ne veut pas dire de ne pas le toucher, c'est de le faire avec des précautions. En aucun cas, on ne peut laisser quelqu'un sur le goudron en train de saigner. Ça, c'est pas possible. Studio
Kalangu à Gaya, sur la radio Phara 90.3 MHz. À Tessawa, sur la radio Termamoa, 97.5 MHz. À Brinconi, sur la radio Nia, 97.5 MHz. À Belleyara, sur la radio Dalol, 96 MHz. Studio
Kalangu. La deuxième partie de ce journal, la partie magazine, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, célébrera le 12 août prochain le 70e anniversaire des conventions de Genève adoptées après la Deuxième Guerre mondiale. L'adjoint au chef de la délégation du CICR au Niger rappelle le contexte de l'adoption de ces conventions. Nicolas Olivier est interrogé par Asumana China.
Face aux horreurs de cette Deuxième Guerre mondiale et avec la découverte des camps de concentration, l'Holocauste, le CICR a fait un appel aux États des pays de l'époque pour réviser les traités existants sur le droit de la guerre. Les propositions du CICR ont été très rapidement appuyées et celle-ci comprenait une nouvelle convention sur la protection des civils et aussi la suggestion de fournir une protection dans les cas des conflits armés internes. Donc une conférence diplomatique a été convoquée par la Suisse à Genève en 1949, le 21 avril pour être précis. Et 4 mois plus tard, la conférence a adopté les 4 conventions de Genève.
Quelles sont les règles pratiques qui découlent des conventions?
Premièrement, nul ne doit être soumis à la torture ni à d'autres formes de mauvais traitement. Le viol et d'autres formes de violence sexuelle sont interdites. Les personnes détenues doivent être traitées avec humanité. Les blessés et les malades doivent bénéficier de soins médicaux. Il est interdit d'attaquer les hôpitaux et les personnels de santé. Les familles ont le droit de connaître le sort de leurs proches et les morts doivent être traités avec dignité.
Quelles sont, en quelques mots, vos grandes réalisations au Niger et surtout, quelles perspectives pour le pays?
Nous assistons, protégeons et atténuons les souffrances des populations affectées par le conflit et les violences. Nos activités se trouvent essentiellement dans 3 régions du pays, Difa, Tillaberi et Agadez. Nous assistons à environ 100 000 personnes, surtout dans la région de Difa, avec des vivres et des biens essentiels, ceci de manière mensuelle. En termes de perspective, nous avons ouvert un bureau à Tillaberi depuis le mois d'avril de cette année. Nous voulons élargir notre couverture humanitaire, mais surtout notre présence dans cette région, surtout dans les zones à la frontière avec le Mali, mais aussi le Burkina Faso. Nous sommes en train de tester des nouvelles méthodes d'assistance qui permettront aux populations vulnérables du Niger touchées par les conséquences du conflit et des violences d'être davantage résilientes.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Place au forum de la presse présenté ce soir par Alassane Kouzi Mahamadou.
Suivez les programmes du studio Kalangu partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangu.
J'aime et je partage.